Vous écoutez On lit pour vous.
En juin, je lis Autochtones, trois suggestions de livres jeunesse des éditions du Boréal. Un texte de la rédaction paru le 1er juin 2026 dans le carnet Je lis Autochtones. 1. L'affaire du chien empoisonné, de Michael Hutchison, traduction de Catherine Ego, collection Boréal Inter. En plein cœur de l'hiver, la communauté de Lac-au-Vent se prépare à accueillir le Festival de la Trappe. Atim, Chikadi, Sam et Otter sont surexcités. Ceux qu'on appelle les rats musclés en raison de leur goût pour l'aventure et le mystère sont ravis de rencontrer des gens venus de partout dans le Nord pour renouer avec la tradition. Par-dessus tout, ils brûlent d'impatience d'assister aux courses de traîneaux à chiens. Mais le jour de la compétition, l'un des chiens s'effondre en pleine course. Alors que l'animal est transporté vers la tente du vétérinaire, un groupe de militants pour les droits des animaux s'agite et les questions fusent. S'agit-il vraiment d'un accident? Pas de doute, c'est une enquête pour les rats musclés. 2. Les deux rives de la Bird Tail, une réserve indienne et un village blanc sur la voie de la réconciliation, d'Andrew Stobo Sniderman et Douglas Sanderson, Amo Binashii, traduction d'Éric Fontaine. Séparés par une rivière et 150 ans de racisme, le village de Rosburn et la communauté indienne de Wewesekapo sont voisins depuis presque aussi longtemps que le Canada est un pays. À elles seules, leur histoire reflète tout ce qui a mal tourné dans les relations entre les peuples autochtones et les populations allochtones du Canada. Elle offre aussi, malgré tout, une rare lueur d'espoir. Les deux rives de la Bird Tail racontent l'éloignement progressif et les inégalités grandissantes entre ces deux communautés du Manitoba et ce que cela signifie pour nous en tant que société. En retraçant le parcours de deux familles, l'une blanche, l'autre autochtone, sur plusieurs générations, du début du 20e siècle à aujourd'hui, Andrew Stobo Sniderman et Douglas Sanderson se sont donné l'ambition de mieux comprendre notre passé, de changer la manière dont nous le concevons et de nous montrer le chemin vers un avenir meilleur. 3. Birdie de Tracy Lindberg, traduction de Catherine Ego. Quand Bernice Mihitos, alias Birdie, quitte sa communauté et son Alberta natale pour venir s'installer dans un petit logement au-dessus d'une boulangerie à Gibson, en Colombie-Britannique, des forces mystérieuses semblent trouver un malin plaisir à lui faire perdre pied. Souvent, inopinément, elle entre dans un état de transe sur le vieux matelas de sa chambre. Tandis que sa tante Val et sa cousine Frida font la route pour venir à son chevet, Bernice reste prostrée pendant des semaines, oscillant entre le souvenir, le rêve et la réalité. C'était, en juin, je lis Autochtones, trois suggestions de livres jeunesse des éditions du Boréal, un texte de la rédaction, paru le 1er juin 2026 dans le carnet « Je lis Autochtones ».
Savant fou, divertissant, mais pas éthique. Un texte paru le 14 février 2023 dans le magazine Québec Science. Dans la fiction, les savants fous ont carte blanche pour réaliser des expériences à bracadabrante. Mais dans la vraie vie, heureusement, les scientifiques doivent respecter des principes éthiques stricts. Un sarrau, des lunettes en fond de bouteille, les cheveux ébouriffés. C'est probablement l'image qui te vient en tête lorsqu'on réfère à un savant fou. Mais dans la fiction, il existe des personnages beaucoup moins caricaturaux. On peut penser par exemple à Catherine Halsey, scientifique dans le jeu vidéo Halo, qui invente une procédure chirurgicale permettant de doter des enfants de 6 ans d'armures, d'interfaces neuronales et d'autres technologies afin de leur donner un avantage si des extraterrestres attaquent. Bien entendu, Ce scénario est bien loin de notre réalité. Mais en décembre 2022, des chercheuses et chercheurs des quatre coins du globe se sont amusés à décortiquer et évaluer les aspects éthiques de différents projets scientifiques issus de la fiction. Catherine Halsley y est passée, mais aussi Cave Johnson, du jeu Portal, ainsi que le professeur Frink des Simpsons. C'est qu'il faut savoir que dans la vraie vie, les scientifiques ne peuvent pas faire n'importe quoi. Un projet de recherche, qu'il implique des humains ou des animaux, doit être approuvé par un comité d'éthique. Lorsque le projet concerne des humains, par exemple, le rôle de ce comité est surtout d'assurer la sécurité et le bien-être des participants. En d'autres termes, il s'assure que la recherche respecte des principes éthiques. Ce comité se compose généralement de scientifiques, d'avocats et d'éthiciens, soit des experts en éthique. L'idée est d'avoir un comité diversifié qui comprend bien tous les enjeux du projet de recherche. Mais l'éthique, c'est quoi exactement? Dans un contexte de recherche, l'éthique est fondée sur le respect des personnes, le souci de leur bien-être et de la justice. C'est assez rassurant de savoir que les personnes qui prennent part à des projets de recherche sont protégées. Malheureusement, ça n'a pas toujours été le cas. Par exemple, dans les années 1950, des médecins qui travaillaient à l'élaboration d'un vaccin contre l'hépatite ont réalisé leurs expériences sur des enfants atteints de déficience intellectuelle. Sans consentement légitime, les scientifiques ont exposé des enfants en situation de handicap à des traitements expérimentaux, parfois douteux. En effet, ils ont délibérément infecté certains de ces enfants au virus de l'hépatite dans le but d'observer l'évolution et la propagation de la maladie. Heureusement, ce type de projet de recherche ne serait jamais approuvé par un comité d'éthique de nos jours. Et le projet de Catherine Halsey? Oui, il vise sans doute à sauver l'humanité. Mais les risques que courent les jeunes sujets sont-ils trop importants pour justifier de telles expériences? Espérons que nous n'aurons jamais à répondre sérieusement à cette question. C'était Savant fou, divertissant mais pas éthique, un texte paru le 14 février 2023 dans le magazine Québec Science.
Un emblème éteint pendant plus d'un an. Un texte d'Henri Ouellet-Vézina paru le 4 juin 2026 dans La Presse. Des travaux d'entretien forceront la ville de Montréal à éteindre l'automne prochain les lumières de l'emblématique croix du Mont-Royal pendant plus d'un an. Depuis plus d'un siècle, ce symbole fort de la métropole a presque toujours brillé au sommet de la montagne. Qu'est-ce qu'il faut refaire? Le chantier s'annonce majeur. En fin de vie, tout le système d'éclairage de la croix doit être refait. Il faudra aussi remplacer certaines membrunes de la structure, en plus de mettre aux normes les échelles, les paliers, le système de mise à la terre et l'enceinte électrique. Des panneaux dissuasifs, pour freiner les ardeurs des aventuriers, doivent enfin être restaurés d'urgence. Un contrat d'un peu plus de 3,7 millions a été accordé à l'entreprise Construction Concrete, le seul soumissionnaire conforme pour réaliser ces travaux. Le calendrier du chantier. Les travaux débuteront probablement après les championnats du monde de vélo sur route prévus à la fin du mois de septembre 2026, selon le responsable des infrastructures au comité exécutif montréalais, Alan Desouza. La remise en lumière est prévue pour l'automne 2027 et la fin complète des travaux au printemps 2028, a précisé l'élu. Il assure que toutes les précautions seront prises pour préserver le caractère historique de la croix. Une riche histoire. Érigée en 1924 par la Société Saint-Jean-Baptiste, SSJB, la croix du Mont-Royal commémore celle plantée par Paul de Chomédée, sieur de Maisonneuve, peu après la fondation de Montréal. Elle avait été aménagée en 1643 après que le fort de Ville-Marie, menacé par une forte crue, eût été épargné. Pour financer l'érection de la croix, 100 000 élèves de la province avaient vendu des timbres commémoratifs. La SSJB a cédé la croix à la ville de Montréal en 1929 et la municipalité s'était engagée à maintenir à perpétuité ce monument, non seulement en existence, mais en bon état d'éclairage. Des précédents. Ce n'est pas la première fois que des travaux de restauration ont lieu pour entretenir la croix. En 1992, dans le cadre du 350e anniversaire de Montréal, le système d'éclairage avait déjà été revu une première fois et remplacé par un système à fibre optique. En 2007, l'administration de Gérald Tremblay a mené un vaste chantier de restauration. Toute la structure métallique avait été retapée, ainsi que les ancrages et les colonnes de support du monument, qui comptaient initialement 240 ampoules. Depuis, c'est un système d'éclairage de type DEL qui illumine la croix. C'était un emblème éteint pendant plus d'un an, un texte de Henri Ouellet Vézina, paru le 4 juin 2026 dans La Presse.
Les soins palliatifs, ce n'est pas la mort, c'est la vie. Un texte de Marie-Hélène Jean, publié le 6 juin 2026 dans La Tribune. Pour bien des gens, parler de la mort s'accompagne d'un certain malaise qui, la plupart du temps, coupe court à la conversation. Ce jour-là, avant de passer la porte de la maison de soins palliatifs du Saguenay, la journaliste du quotidien le ressentait aussi, cet inconfort un peu diffus. Bien qu'elle n'y avait jamais mis les pieds auparavant, elle savait pourtant que ce qui s'y vivait ne pouvait être qu'important. Après tout, jusqu'à preuve du contraire, on ne meurt qu'une fois. L'an dernier, la maison de soins palliatifs du Saguenay a reçu environ 260 demandes d'admission. De ce nombre, 198 personnes y ont vécu leurs derniers instants. Il faut ici insister sur le mot « vécu » parce que, comme en témoignent les personnes qui y travaillent, il y a plus de vie dans cet endroit que ce que l'on pourrait imaginer. La directrice générale de la Maison de soins palliatifs du Saguenay, Marie-Hélène Tremblay, raconte que les gens arrivent souvent avec l'idée du « couloir de la mort » et imaginent s'y faire « piquer » mais découvre plutôt un milieu de vie. Ce à quoi la docteure Martine Roy, directrice médicale, renchérit, les soins palliatifs, ce n'est pas à propos de la mort, c'est à propos de la vie. Elle explique que les soins palliatifs, au sens large, peuvent commencer dès qu'une personne reçoit un diagnostic de maladie grave et incurable. Il y a des gens que je suis à domicile depuis 2 ou 3 ans. Ici, à la maison de soins palliatifs, on accueille généralement des gens avec un pronostic qu'on juge autour de 3 mois, mais la moyenne de ces jours se situe autour de 14 jours. Une donnée qu'elle qualifie elle-même d'un peu embêtante parce que certaines personnes vont demeurer un peu plus longtemps tandis que d'autres y seront à peine 24 heures. C'est vraiment très, très variable. À quoi ressemble le quotidien dans un environnement où on accompagne la fin de vie? C'est particulier, reconnaît la docteure Roy. On le sait en dedans, nous, si on est bien ici ou non. Elle explique que le malaise que plusieurs
ressentent face aux soins palliatifs se dissipe souvent de lui-même lorsque les gens comprennent ce qu'ils sont réellement. La docteure Roy parle de la culture des soins palliatifs, une approche qui ne vise pas seulement à accompagner les personnes malades qui demeurent au centre, mais aussi des proches qui l'entourent. On essaie de prendre le moins de place possible pour qu'ils puissent vivre ce qu'il y a à vivre. Après des mois, voire des années, à veiller sur l'être cher, les proches sont souvent épuisés d'avoir jonglé avec les rendez-vous médicaux, les soins, la médication. On leur permet de reprendre leur rôle de conjoint, de fils, de fille, sans rien imposer, illustre-t-elle en ajoutant que les familles ont la liberté de participer aux soins, si elles le souhaitent, pour cultiver le lien, ce qui peut apaiser le sentiment d'impuissance que certains ressentent. Aucune journée ne ressemble à la précédente. Même si un certain cadre demeure, particulièrement en ce qui concerne les soins, la flexibilité est de mise. Il n'y a pas de quotidien. On accueille les résidents et on s'adapte à leurs besoins et à leur rythme, fait valoir Mélanie Montbeaubier-Girard, coordonnatrice des bénévoles, qui trouve une profonde satisfaction dans son travail à la maison de soins palliatifs. Ce que les résidents ne savent pas encore, souvent, c'est à quel point il reste du beau à vivre. Nous, on leur permet de vivre pleinement ces derniers moments. Pour mieux accompagner les questionnements existentiels plus profonds qui émergent parfois en fin de vie, Dr. Roy, qui est aussi psychologue de formation, souligne l'importance de répondre aux besoins de base des personnes afin qu'elles soient dans les meilleures dispositions possibles. Pour ce qui concerne les souffrances physiques, je dirais que 95 % du temps, les gens vont être soulagés de façon vraiment confortable. La plus grande souffrance que l'on trouve, c'est quand quelqu'un ne trouve plus de sens et veut lâcher prise. Selon elle, l'espoir demeure jusqu'à la fin. C'est humain d'avoir de l'espoir. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de travail en amont pour dire que les soins palliatifs, ça n'accélérera pas la mort, ça ne ralentira pas. On va juste continuer à vivre. Aussi surprenant que cela puisse paraître, la médecin côtoie régulièrement des personnes qui lui confient que, si elle avait su avant à quoi ressemblaient les soins palliatifs, elle serait venue plus tôt. Le médecin parle d'un accompagnement intensif durant lequel tous les petits moments sont importants. Personne n'a jamais regretté d'être venu trop tôt parce que c'est encore la vie et qu'il y a encore de très très beaux moments à vivre ici, dit-elle, en évoquant le souvenir d'un mariage célébré à la maison. Même si le séjour à la maison de soins palliatifs se termine par le décès de la personne, la docteure Roy met aussi en relief le cadeau que représente le soutien offert aux proches, parce qu'on va être là pour les porter. La fin de vie aurait aussi cet effet de ramener les personnes qui s'en approchent de l'essentiel. Ces petites histoires, ces anecdotes, c'est précieux parce qu'ils choisissent de nous les dire à nous. C'est vraiment riche, exprime Madame Montbeaubier-Girard, touchée de pouvoir tenir ce rôle qui fait sens pour elle. Marie-Hélène Tremblay retrouve à la maison de soins palliatifs une authenticité sans commune mesure. Les gens qui arrivent ici, il n'y a pas de fla-fla, il n'y a pas de statut social. Les gens sont vrais. Peu importe leurs accomplissements, ils sont tous au même niveau. On voit que ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce qu'on a obtenu dans la vie, ce sont les liens qu'on a tissés. Les critères médicaux et psychosociaux prévalent pour l'attribution d'une place à la maison de soins palliatifs où les services sont gratuits. La directrice générale se souvient d'ailleurs d'y avoir accueilli une personne en situation d'itinérance. J'ai trouvé ça beau qu'on puisse lui offrir ça à la fin de sa vie. Il ne faut toutefois pas se méprendre, même avec toute l'humanité du monde, la mort demeure triste. En travaillant en soins palliatifs, Dr. Martine Roy croyait qu'elle apprendrait comment apprivoiser la fin de vie et la mort. Avec le temps, elle constate que la leçon est tout autre. Ils nous apprennent comment vivre, c'est vraiment ça. Selon elle, le regret numéro un, même s'il peut paraître un peu cliché, réside dans le temps consacré au sien. Je n'ai jamais entendu personne dire « j'aurais dû travailler plus ». Par contre, j'en ai entendu plusieurs dire qu'ils auraient dû passer plus de temps avec les gens qu'ils aiment. C'était « Les soins palliatifs, ce n'est pas la mort, c'est la vie », un texte de Marie-Hélène Jean publié le 6 juin 2026 dans La Tribune.
Consentement et prévention des violences sexuelles, le travail est loin d'être terminé. Un texte de Kaina Schwitter, paru le 21 mai 2026 dans l'Aurore boréale. Au Canada, le mois de mai est consacré à la prévention des violences sexuelles. Cette campagne joue un rôle fondamental dans l'éducation et la sensibilisation du public. Chaque année, la campagne du mois de mai vise à informer la population sur les notions de consentement et de relations saines, à réduire les préjugés et la stigmatisation envers les survivants, à encourager les personnes touchées à demander du soutien et à rappeler que la prévention est une responsabilité collective. La prévention ne consiste pas seulement à réagir après les faits. Elle consiste surtout à créer des environnements où le respect est normalisé, où les comportements problématiques sont dénoncés et où les jeunes apprennent le plus tôt possible que le consentement ne devra jamais être tenu pour acquis. Des statistiques parlantes. Une telle prévention demeure essentielle, surtout lorsqu'on examine les chiffres, qui restent alarmants. Selon le gouvernement du Canada, environ une femme sur trois au pays a subi une agression sexuelle depuis l'âge de 15 ans. Les femmes sont presque quatre fois plus susceptibles que les hommes d'être victimes d'agressions sexuelles. Les femmes autochtones sont particulièrement touchées. 46 % d'entre elles ont vécu une agression sexuelle au cours de leur vie, comparativement à 33 % des femmes non autochtones. Toujours selon le gouvernement fédéral, seuls environ 5 % des agressions sexuelles sont signalées à la police au Canada. Chez les femmes âgées de 15 à 24 ans, plus de 6 femmes sur 10 ont déclaré avoir vécu des comportements sexuels non désirés dans un lieu public. Ces statistiques démontrent clairement l'importance d'un travail constant de prévention et d'éducation auprès de la population. Au Yukon, les réalités vécues rendent cette sensibilisation encore plus importante. L'importance des organismes communautaires. Face à ces constats préoccupants, le rôle des organismes communautaires est indispensable afin de sensibiliser la population et prévenir les violences sexuelles. Au Yukon, plusieurs organismes à but non lucratif ont pour mission de soutenir les femmes et de promouvoir la prévention des violences, notamment les Essentiels, le Centre des femmes Victoria Faulkner, et le White Horse Aboriginal Women's Circle. Ces trois organismes font partie de la Coalition des femmes du Yukon. Les Essentiels et le Centre des femmes Victoria Faulkner collaborent depuis plusieurs années dans le cadre de nombreuses campagnes importantes touchant les droits et la sécurité des femmes, notamment lors de la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars, pendant la campagne des 16 jours contre la violence fondée sur le genre, ainsi qu'au cours du mois de la prévention des agressions sexuelles. Nina Brandelic, directrice des Essentiels, souligne l'importance de cette mobilisation. Une telle campagne est nécessaire. Si on la refait chaque année, c'est que le problème existe toujours et persiste. Le mois de la prévention permet de mettre en lumière cette problématique, de rappeler aux gens que les violences sexuelles existent et que des ressources sont disponibles pour aider et prévenir. Des ateliers pour sensibiliser le public. Afin de sensibiliser le public, plusieurs ateliers et activités sont offerts tout au long du mois de mai. Le 20 mai, les Essentiels ont tenu un kiosque à l'école CSSC Mercier destiné aux élèves. Les jeunes pouvaient participer à des activités ludiques et courir la chance de gagner des prix. Le côté ludique aide à attirer l'attention des plus jeunes et permet ensuite d'ouvrir la discussion sur ces enjeux, explique la représentante de l'organisme. Le 28 mai, un dîner et dialogue, destiné aux parents cette fois, sera également organisé afin d'aborder l'éducation sexuelle des jeunes et les outils permettant de discuter du consentement et d'aborder le sujet avec les plus jeunes. Le mois de la prévention des violences sexuelles rappelle que la lutte contre ces violences concerne l'ensemble de la société. Au-delà des campagnes et des activités organisées en mai, le travail de sensibilisation doit se poursuivre toute l'année afin de bâtir des milieux plus sécuritaires et respectueux pour toutes et tous. Grâce à la collaboration entre les organismes communautaires, ces initiatives permettent d'ouvrir le dialogue, de briser les tabous et de mieux outiller la population. Informer, écouter et soutenir les personnes touchées demeure essentiel afin de prévenir les violences sexuelles et de favoriser une culture du consentement et du respect. C'était « Consentement et prévention des violences sexuelles. Le travail est loin d'être terminé ». Un texte de Kaina Schwitter, paru le 21 mai 2026 dans l'Aurore boréale.